En face de moi, le plateau du théâtre du Chien qui fume, trois mannequins avec trois robes, trois parures absolument magnifiques, un piano, et puis quelques accessoires. Et puis surtout, autour de moi, eh bien, j'ai une interprète, j'ai un compositeur, également un auteur, Antoine Selva. Antoine Selva, on s'est souvent rencontrés à une époque pour parler de vos mises en scène à l'Opéra d'Avignon. Je me souviens notamment de Thaïs, qui m'avait beaucoup marqué. C'était dans les années 90.
Oui.
Là, c'est un spectacle musical avec un livret signé Antoine Selva. Ouais. Je sais que vous avez écrit des romans. Est-ce que vous avez écrit beaucoup de livrets d'ouvrages lyriques ?
C'est le premier livret parce que bon, j'ai toujours eu soin de donner un passé aux interprètes dans les opéras traditionnels. Je ne veux pas qu'ils rentrent en scène et tout d'un coup qu'ils soient le personnage. Et à force d'inventer des passés, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'écrirais pas des histoires ? Et le livret est venu parce que on m'a raconté que dans une grande propriété du côté d'Avignon, qui a un mur très très long, pour ne pas citer le nom du propriétaire actuel, tout est parti de là. Voilà. Puis il y a eu un petit problème. De ce livret, j'en ai fait un roman. Et puis un beau jour, nous sommes rencontrés avec Éric Breton. Je lui ai proposé l'affaire et c'est parti.
Elle est née comment cette jeune femme, Irina, qui a une main déformée, qui vit comme ça, cloîtrée, entourée, on pourrait dire, de trois fantômes d'une certaine manière. Qu'on pense aux trois parcs, par exemple, à des choses comme ça.
Eh bien, j'ai connu une personne qui était la fille de la propriétaire de ce domaine.
Avec le long mur.
Oui, avec le long mur. Elle travaillait sur une aire d'autoroute, parce que sa mère l'a martyrisée, sa sœur l'a martyrisée, sa tante l'a martyrisée. Elle était obligée de travailler. Et puis sa main tordue m'a donné l'idée d'un petit peu fantasmer autour de cette histoire.
Fantasmer en même temps au livret d'opéra. Est-ce qu'il y a un récitatif? Il y a forcément des parties chantées. Comment l'avez-vous articulé ce livret?
C'est un texte d'un seul bloc et j'ai dit à Éric de faire ce qu'il en voulait, c'est-à-dire selon ce qu'il allait composer, de peut-être trancher des choses trop longues que moi j'ai mis par poésie et qui est inutile certainement. C'est terrible parce que maintenant je crois que le texte ne m'appartient plus. C'est un sentiment que j'éprouve sans arrêt à écouter et à entendre la musique. Il a capté mes mots et il les a enrobés d'une musique et c'est ça qui est devenu le thème de cette histoire.
Éric Breton, alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez récupéré le livret, le texte, le roman, on ne sait plus trop comment le définir, signé Antoine Selva?
Alors il s'est passé déjà que je connaissais l'histoire parce que justement j'avais lu un livre dans lequel Antoine parlait surtout de l'histoire de ce livret parce qu'en fait... Ce que Antoine n'a pas précisé là, c'est qu'il avait déjà fait une expérience de composition il y a au moins 15-20 ans, quelque chose comme ça, avec un compositeur aux États-Unis qui s'est avéré être un escroc. Donc ce projet était resté un petit peu à l'état latent. Alors il se trouve que je vais rebondir quand même sur ce que vient de dire Antoine à l'instant, à savoir que Antoine disait « ça ne m'appartient plus » et moi je dis un petit peu le contraire. Pour moi, la musique est déjà dans le texte. C'est-à-dire, c'est le texte qui porte la musique. Et un peu comme les sculpteurs disent souvent qu'ils ne font que mettre à jour la statue qui est déjà à l'intérieur du bloc, moi, j'ai toujours cette impression de faire apparaître la musique qui est déjà sous-jacente dans le texte. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça se passe en principe toujours pour moi, c'est-à-dire sans grande douleur. J'ai la grande chance de ne pas connaître les affres de la page blanche. Un jour, j'ai commencé à lire le texte. Et chose rare, par contre, je l'ai composé entièrement dans l'ordre chronologique, alors qu'en principe, je travaille plutôt par bouts qui ne sont pas forcément dans l'ordre. Là, j'ai pris au début, de manière à véritablement suivre mieux encore la chronologie. Voilà. J'ai fait quelques petites coupures, parce qu'Antoine m'y avait autorisé, mais bon, en gros, on est resté à peu près fidèle à l'idée de départ.
Au niveau de la composition, est-ce qu'on peut parler de parler-chanter, par exemple ?
Non. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de récitatif. Il y a quasiment pas de récitatif. Il y a deux caractéristiques qui sont en principe attenantes à l'opéra et que je ne pratique pas, c'est le récitatif et le mélisme. Le récitatif, parce que d'abord c'est très daté par rapport à la musique du XVIIIe siècle, et surtout parce que dans l'opéra contemporain, pour moi, tout ce que j'ai entendu les 30 dernières années, c'est du récitatif permanent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup de notes extrêmement difficiles, beaucoup de raclements, beaucoup de hurlements rock et de choses comme ça, mais pour moi, j'entends un interminable récitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélodie, pas d'harmonie, et donc je me tiens à ne pas utiliser le récitatif. Voilà. Donc il y a une espèce de mélodie continue qui est développée du début à la fin, avec quelques réminiscences de certains passages, mais la plupart du temps, c'est une mélodie continue. La deuxième chose, juste je précise, le mélisme, donc c'est le fait de chanter un certain nombre de notes sur la même voyelle. Ah, oh,
et voilà. C'est le baroque, ça.
Voilà, ça c'est le baroque, c'est la musique italienne du 19e, 18e, 19e, voilà. Je trouve ça assez kitsch. Et en plus, là-dessus, on s'est très bien entendu avec Antoine, parce que ça me paraît être la meilleure manière qu'on ne comprenne absolument rien à ce qui se passe.
Lorsque vous composiez, puisque bon, c'est venu comme ça d'un fil, est-ce que vous aviez en tête déjà la voix et l'interprète ?
Alors, là, ça nous oblige encore à repartir dans des... Non, on peut en parler, qu'est-ce que tu en dis, Antoine ?
Sans citer des noms. C'est-à-dire que j'ai assisté à un exercice d'élève. Une fille était très, très bien. Belle femme, belle voix, bonne interprète. Et dès le premier contact, elle refusait des choses en me disant qu'elle ne prononcerait pas ces phrases-là. Alors, j'ai dit, si vous ne les prononcez pas, bien, vous resterez à la maison. Voilà. J'en ai parlé à Eric, il m'a dit, mais ah, qu'à cela ne tienne, nous avons sous la main Lydia Maillot.
C'est comme ça que l'affaire s'est faite.
On a gagné au change.
Pour répondre exactement à votre question, avant que la décision de faire appel à la diva Lydia, j'avais déjà commencé un petit peu à composer avec la voix de cette autre personne en tête. Mais bon, Lydia a tellement de ressources vocales et artistiques qu'elle s'est immédiatement coulée dans ce qui avait été fait. Et puis les deux tiers ont été composés, même les trois quarts ont été composés avec vraiment en tête la voix de Lydia, avec qui j'ai la chance de travailler depuis un certain nombre d'années, je n'en dirai pas plus. Parce que...
Oui, Lydia Maillot, on vous a souvent entendu d'ailleurs à la fois chanter et jouer la comédie sur ce plateau. Alors justement, quelle a été votre réaction lorsque vous avez d'abord lu le texte d'Antoine et puis écouté la musique d'Éric ?
J'ai été ravie parce que j'aime les challenges, j'aime les cas d'urgence comme ça, j'aime quand Éric m'a téléphoné. Je venais juste de prendre une décision d'arrêter un projet pour l'année prochaine où moi-même je fais travailler une troupe et je monte un spectacle. Je leur avais dit je prends une année sabbatique pour m'occuper de moi, faire d'autres choses. Et deux jours après, Éric m'appelle. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que je lui ai dit quand il m'a dit que cette personne, il y avait des mots trop durs, il m'a déjà dit que c'était un livret lourd, noir, tu verras, envoie-moi le texte. Dès que je l'ai lu dans la soirée, je lui ai dit, mais bien sûr, je le fais. J'aime ces challenges, j'aime aller chercher du personnage, j'ai aimé le côté théâtral. Et je me suis dit, mais moi qui ai envie de retravailler sur moi avec la voix, ne pas m'occuper de la voix, toujours l'esthétique de la voix, mais chanter des mots qui sont cruels, qui sortent du tréfonds, là, le côté voilà, théâtral m'a beaucoup plu et j'ai accepté de suite et c'est passionnant, passionnant.
Vous venez de me dire, j'aime les personnages. Alors ce personnage d'Irina, justement, quelles sont ses qualités, ses tourments ?
Oh là là, magnifique, j'ai un peu l'âge qu'elle a quand elle arrive sur scène et elle fait une espèce de flashback, elle revient sur sa vie, régler un peu des comptes, ou en tout cas s'apaiser, arriver à un moment où elle veut fermer un livre pour être en paix avec elle et avec tout ce passé quand même bien douloureux. J'interprète plusieurs âges de l'âge de Irina, en passant de 8 ans, 10 ans, à peu près 5-6. Et puis ensuite j'ai le personnage de la maman aussi, elle est très puissante en moi, très très puissante et j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'était un peu moi aussi. Donc elle m'a beaucoup bouleversée et là elle est en train aussi de me réparer finalement. Donc c'est magnifique.
Antoine Selva, l'auteur, mais aussi metteur en scène, créateur de costumes, scénographe, hein, je me souviens, lorsqu'on se voyait à l'époque. Alors un petit mot quand même sur ce qu'on voit autour de nous. Il y a une forme de cachet qui me rappelle certaines de vos mises en scène. Vous aimez bien les choses bien faites, une certaine élégance d'une certaine façon.
C'est Annie qui a fait avec moi les costumes. Je voulais que ces personnages soient vraiment des mannequins. D'ailleurs, vous remarquez qu'elles n'ont pas de mains, elles ont des moignons. Et ce sont les parcs. Parce que remarquez que la dernière, qui est la tante, a le ciseau qui tranche. Et d'ailleurs, la fin, c'est une sorte de chanson, on peut dire, de comptine, qui raconte l'histoire des parcs, qui a martyrisé sa vie à cette pauvre femme. Mais elle évoque aussi la némésis, qui est la déesse de la vengeance et qui permet de mettre les choses en règle, au point.
Je veux dire qu'on a une interprète et quatre personnages finalement sur le plateau.
Cinq personnages parce que Eric participe au... C'est-à-dire qu'Irina, tous les jours à 5 heures, offre le thé au mannequin. C'est une thérapie, c'est un tribunal qu'elle fait. Elle invite un musicien parce que la mère a des airs, surtout une valse qui est un petit peu... Oui, 1900. Et donc, Eric, à la fois, il accompagne, mais il fait partie du scénario. Elle part de 10 ans à peu près jusqu'à 45 ans, en évoquant tous les souvenirs, tous ses malheurs, tous ses bonheurs. Parce qu'à l'intérieur de ce scénario, elle a un grand bonheur. Mais le drame revient, et elle est obligée de revenir vers sa mère.
Tout de suite, quand on pense à un spectacle, une proposition assez théâtrale, avec de la musique et une voix, on pense à la voix humaine, par exemple.
Oui, j'ai fait la voix humaine. Et j'avais fait un spectacle avec la Dame de Monte Carlo avant. Mais je me dis, ça serait bien s'il y avait quelque chose qui était un peu comme la voix humaine, mais qui prenait le contre-pied. Et je pensais tout de suite à faire une première partie avec Irina, une seconde partie avec la voix humaine. Mais c'était trop pour la même interprète.
Eric, donc déjà vous avez votre partition à jouer, bon, ça bon, oui. Si vous l'avez écrite. Oui. Mais vous avez aussi à jouer avec Lydia, et à jouer votre personnage.
Oui, un petit peu. C'est surtout au début, en fait. Moi, mon rôle est quand même assez rapide. C'est au début que j'interviens, effectivement, comme étant le pianiste qui va jouer dans cette espèce de cérémonial, dans ce rituel. Mais bon, après, je me contente d'accompagner Lydia, de faire tout le côté musical, quoi. Voilà. Non, après, je n'ai pas véritablement de rôle joué, quoi. Voilà. Heureusement, parce que c'est pas franchement ma spécialité. Vous savez, là, avec Antoine et Lydia, on s'entend très bien là-dessus, parce que la vie commence par l'action. Il faut faire les choses, puis après, on verra bien ce qui se donnera, on verra bien les réactions. Nous, pour le moment, nous sommes enthousiastes.
La bonne représentation.
Merci.